Lundi,
20h,
21h.
Stéphane Corcoran,
Baptiste Brunello.
Est-ce que ça se discute
sur la radio du mamie?
Est-ce que ça se discute?
Bonsoir, merci à tous d'être au rendez-vous pour cette troisième émission de « Est-ce que ça se discute ?». Une émission un peu particulière cette semaine, puisque enregistrée en différé et en deux lieux. Il va être question aujourd'hui de débat, et d'un débat en particulier. Un débat inhérent à la résistance et à la naissance sous le commandement de Vichy de l'École nationale des cadres et plus en particulier l'école de Durillage. Alors, tout d'abord, contextualisons. En abrogeant la République et en proclamant l'État français, Philippe Pétain ne va pas seulement ouvrir une parenthèse dans l'histoire, mais bien placer au pouvoir des factions actives, des factions de la droite française, donc avides de prendre leur revanche aussi bien sur la gauche du Front populaire que sur 1789. Alors, les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, les traditionalistes, les insurgés du 6 février 1934 et les dits techniciens en rupture avec le parlementarisme vont se disputer à ce moment-là des postes politiques. L'État français n'est pas seulement le théâtre d'une confiscation des pouvoirs, il est aussi porteur d'un projet idéologique, hein, celui de la révolution nationale. Alors, cette formule doit être bien comprise comme désignant une forme de nationalisme contre-révolutionnaire, qui entend aussi balayer les acquis de la révolution universaliste de 1789, donc beaucoup plus tôt historiquement. Le maréchal Pétain va confier aux traditionnalistes l'éducation nationale et les mouvements de la jeunesse, ces mouvements qu'il appellera les chantiers de la jeunesse. Alors, ces chantiers vont être placés sous la responsabilité du général Laporte du Theil, tandis que Georges Lamiran deviendra, lui, secrétaire de la jeunesse. Philippe Pétain va chercher à créer une structure élitiste, une structure dont l'objet sera de former les cadres de la Révolution nationale. Alors, ce sera la communauté Durillage. Alors, ce fief traditionnaliste va offrir assez rapidement une légitimité intellectuelle au régime, grâce notamment à la participation du philosophe, le philosophe personnaliste Emmanuel Mounier. Alors, le maréchal nommera Pierre-Dominique Dunoyer de Ségonzac directeur de cette école des cadres Durillage. Alors, c'est pas un choix hasardeux, hein, parce que de Ségonzac est un traditionnaliste, hein, à la manière de Pétain. Il a adhéré à la doctrine de Lyautey, une doctrine assez largement diffusée dans les cercles sociaux, auxquels il avait appartenu donc dans les années 30. Alors, il s'agissait de petites réunions d'officiers, donc de disciples de Lyautey, des réunions organisées par les capitaines de La Chapelle, de Virieux et Huette. Alors, pour les disciples de Lyautey, les officiers doivent entrer dans la troupe, hein, c'est vraiment les termes, entrer dans la troupe, hein, afin de convaincre les soldats de la nécessité de construire un mouvement politique qui soit à la fois catholique et social. L'appartenance à ce réseau explique les rapports privilégiés que de ces Gonzac entretient avec l'amiral et la chapelle. La chapelle qui le convoquera plus tard à Vichy. Alors, en mai 1940, de ces Gonzac va participer à la bataille de France. Il assiste impuissant à la déroute de son escadron de chasse. Puis il va s'enfuir et se rendre en Dordogne. Et c'est là-bas, à Mussidan, qu'il apprend les conditions de l'armistice du 22 juin. Alors, il va accepter sans discussion, sans hésitation, l'autorité du qui installe son gouvernement à Vichy le 2 juillet 1940. Le commandant La Chapelle, lui, affecté au secrétariat d'État à la jeunesse, va inviter donc de ces Gonzac à Vichy pour lui confier la mission de créer une école chargée des jeunes chefs, une école qui formera de jeunes chefs, favorables au nouveau régime. De ces Gonzac organise l'école des cadres à la Folconnière. Alors, fin 1940, finalement, il y aura une délocalisation puisque l'équipe s'installera définitivement dans le château de Bayard à Uriage. Uriage qui est un petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Alors, Uriage a deux fonctions. D'une part, dans le contexte d'une débâcle militaire, le gouvernement de la collaboration va tenter de maintenir l'ordre en prévenant toute tentative de reprise de la lutte armée. Ainsi, les chantiers de la jeunesse seront secondés par Uriage. Et vont prendre en charge donc les jeunes démobilisés. Et d'autre part, l'école des cadres doit servir de laboratoire idéologique. Les stages vont permettre de sélectionner les jeunes chefs qui se verront attribuer, en fonction de leur mérite et surtout de leur fidélité au maréchal Pétain, des postes de commandement aux dits chantiers de la jeunesse. Ces chantiers qui sont dirigés par le général de la Porte du Teil. Alors, ces chantiers ont pour but explicite la pacification des soldats démobilisés. On y marche au pas, on y porte l'uniforme, mais pas les armes, hein, on ne touche pas aux armes. L'entraide nationale des jeunes va constituer un moyen de les surveiller et puis d'encadrer toute cette jeunesse afin d'éviter qu'ils ne prennent les armes contre la puissance occupante. Il faut comprendre que se joue un renversement à ce moment-là. Le 20 octobre 1940, l'école va recevoir la visite de Pétain. Pétain, accompagné de Georges Lamiran, donc le secrétaire de la jeunesse, et de Georges Ripert, ministre de l'Éducation nationale. L'inspection va se dérouler sans accroc, sans incident. Il faut comprendre que de ces Gonzac, vous à ce moment un culte absolu au maréchal. Il va d'ailleurs recevoir la Francisque, qui est une décoration créée par le chef de l'État français pour récompenser ses fidèles. Le journal de l'école, Jeunesse France, saluera la venue de ses visiteurs avec ses propos. Alors, combien nous nous sommes sentis plus unis, plus forts, après ces minutes qui compteront parmi les plus belles de notre vie. Quelle reconnaissance nous avons pour vous, Monsieur le Maréchal, car votre présence à la Falconnière, en ce dimanche paisible et radieux d'automne, a donné tout son poids, toute sa gravité et à notre serment. Alors, pour de Ségonzac, la fidélité au Maréchal constitue une règle de base qui doit lier tous les membres de l'école. Ses opposants, notamment les gaullistes comme Abbé de Nauroy, sont encore tolérés au sein de la communauté. Uriage repose en fait sur un jeu d'alliance objective entre des groupes d'intellectuels qui veulent tirer profit de la mise en place du nouveau régime. Alors leur stratégie opportuniste explique en fait le manque de cohérence idéologique et tout l'empressement avec lequel les membres du RIAGE se rangeront finalement dans le camp états-unien lorsque le vent va tourner. La communauté du RIAGE obéit à un ensemble de règles qui correspondent à la philosophie politique catholique et autoritaire du maréchal. Les cercles sociaux qui rassemblaient donc dans les années 30 des officiers qui avaient cette volonté de briser l'isolement de l'armée, donc ces cercles sociaux ont vraiment influencé l'esprit du RIAGE. L'organisation de la jeunesse est conçue comme une mission militaire, et religieuse, globalement historique. Les valeurs principales du RIAGE sont le sens de l'honneur, la foi et le loyalisme absolu envers le maréchal Pétain. De Ségonzac va vouloir former, conformément aux exigences de Vichy, un homme total disposant donc d'aptitudes techniques, mais aussi d'un sens du spirituel, d'un sens de l'honneur et d'un sens de la patrie. Une élite traditionnaliste au service de la révolution nationale en fait. Le programme de formation intellectuelle comprend l'étude des trois auteurs désignés comme étant les maîtres de la politique française, à savoir Maurras pour la monarchie, Peggy pour la critique du parlementarisme et Proudhon pour son traditionalisme. La formation des stagiaires est assurée par un bureau d'études qui comprend Louis Lallemand, Bertrand d'Astorgue et Hubert de Beuve-Méry. Alors, sous la direction du maréchal Pétain, du vieux chef, ces intellectuels vont tenter de mettre en forme la philosophie de la Révolution nationale. Alors, parmi les dirigeants de l'école, on trouve aussi André Voisin, qui sera plus tard le leader du mouvement fédéraliste européen. À la fin de 1940, l'école va organiser un colloque réunissant les différentes factions de l'intelligentsia proche du RIAGE. Emmanuel Mounier et Jean Lacroix, les fondateurs de l'Esprit Revu. Jean-Jacques Chevalier, professeur de droit à la faculté de Grenoble. Michel Dupuet, qui est au secrétariat général à la jeunesse. Henri Massis, de la revue Universelle. Et d'autres encore vont y participer. Alors, une opposition très importante va surgir entre Mounier et Massis. Mounier est le fondateur du personnalisme. Il défend une doctrine catholique et sociale qui est fondée sur le primat de l'individu et qui dénonce la massification. Tandis que, évidemment, Massis lui est maurassien. Alors c'est un conflit idéologique, un conflit de pouvoir en fait pour le contrôle du riage. Beuve-Méry, dans un article intitulé « Révolution nationale et révolution humaine » qui est publié dans Esprit en 1941, dit cette chose, écrit cette chose. « Il faut à la révolution un chef, des cadres, des troupes, une foi ou un mythe. La révolution nationale a son chef et grâce à lui, les grandes lignes de sa doctrine. Mais elle cherche encore ses cadres. » Alors, malgré la protection quasi officielle du maréchal, l'équipe du Riage va être la cible de nombreuses critiques émanant du gouvernement. Les rapports, en fait, les rapports avec l'amiral Darlan, vice-président du Conseil, sont très conflictuels. Le 17 février 1941, de Ségonzac va recevoir des instructions précises. Il va être sommé de se séparer de Mounier et de l'abbé de Noroy. Alors, ce dernier, finalement remercié par Hubert Beuve-Méry et de Ségonzac, va se voir remplacé par un nouvel aumônier, donc un aumônier moins à gauche et surtout plus fidèle. Un Vichy va tenter d'imposer, malgré la défiance de Ségonzac, une conférence de Doriot qui cherchera à trouver des volontaires pour se battre sur le front de l'Est. Alors, en 1942, 18 avril, le retour de Laval va rendre évidente l'impuissance politique du maréchal Pétain. En plus, Uriage a complètement perdu le soutien de Philippe Pétain. Et les traditionnalistes des mouvements de la jeunesse, à savoir l'Amiran et la Porte du Tiel, vont commencer à se méfier du maréchal. Alors, privé de son unique appui politique, de Ségonzac contacte la résistance. Hein, il prend contact avec... avec la résistance à ce moment-là. Une rencontre va être organisée avec le capitaine Pierre Sonneville. Donc, capitaine Pierre Sonneville, qui est agent du Bureau central des renseignements et d'action, le BCRA. Il va être question là, de mettre en place le réseau Marco Polo dans la région lyonnaise. Les principales personnalités du Riage imiteront la démarche du vieux chef. Hein. Le choc de Stalingrad, qui annonce des nouvelles perspectives politiques, va dévoyer les plus opportunistes d'entre eux et le temps leur impose de se trouver de nouveaux alliés. L'amiran annoncera officiellement la fermeture du Riage le 11 février 1943. Donc le château, il recevra de nouveaux locataires en la milice dirigée par les SS et par le commandant Darnan. Beuve-Méry et de Ségonzac décident alors de créer un ordre du Riage qui va regrouper une petite minorité de la communauté, en quelque sorte les résistants de cette communauté. Le conseil de l'ordre sera composé donc dans un premier temps de Geoffre Dumazedier, de Gilles Ferry, d'Hubert Beuve-Méry et de Pierre de Ségonzac, évidemment. Les consignes sont simples et strictes. L'ordre est une société secrète qui est accessible à une élite qui doit tout de même se méfier principalement des juifs, des francs-maçons et des communistes. Alors, à côté de cet ordre secret, sera constitué un mouvement destiné à se développer dans le maquis. Hein, les nouvelles équipes de la Renaissance française, la NERF. Ainsi, des intellectuels compromis dans la collaboration avec l'occupant nazi vont se garantir mutuellement leur recyclage dans la résistance. Volant au secours de la victoire, ils adaptent leur discours sur la décadence et la Renaissance à leur nouvel auditoire, en fait. La faute n'est plus aux juifs et aux républicains, et le salut n'est plus offert par le maréchal. C'est au contraire désormais la faute du maréchal et le salut par De Gaulle et les anglo-américains. Alors, au total, l'école aura reçu près de 1500 stagiaires. Parmi eux, Simon Nora ou Roger Stéphane. Et bien sûr de prestigieux conférenciers, les dominicains Marie-Dominique Chenu, Ambroise Marie Carré, le jésuite Henri de Lubac, mais aussi le philosophe Gabriel Marcel, ainsi que Edmond Michelet, Paul Claudel, Louis Saléron, Alfred Fabre-Luce, Daniel Robs et j'en oublie certainement. Les membres du bureau d'études et de l'ordre du Riage s'engagent dans la résistance. Ils abandonnent l'idéal révolu de la révolution nationale. Alors, ayant suffisamment tôt retourné leur veste, ils obtiennent à la libération des places de confiance. Beuve-Méry, sur la demande du général de Gaulle, crée en 1944 le quotidien national Le Monde. L'équipe de la revue Esprit, donc une équipe très proche des réseaux pro-états-uniens, notamment le commissariat au plan, est dirigée par des disciples de Mounier, Béguin, puis Jean-Marie Domenac. La revue, tout en gardant un discours catholique et social, accueille des intellectuels qui vantent l'Amérique de gauche, une certaine idée d'une Amérique humaniste. Des combattants de la guerre, d'une guerre culturelle contre Michel Crozier. Geoffre Dumazedier et Paul-Henri Chambard entrent au Centre d'études sociologiques, le CES, un organisme recevant des crédits de planificateurs. Une fois le recyclage terminé, les anciens du Riage, dont on ne sait s'ils ont ou non dissous leur ordre, popularisent leur version de leur histoire. Et ainsi se crée le mythe d'un Uriage qui aurait échappé au maréchal et serait devenu un centre de la résistance. Voilà. Est-ce qu'on peut penser comme ça ? Est-ce que, en définitive, quel crédit apporter à quoi ?
Alors, Baptiste, il me semble qu'il y a plusieurs points dans ce que tu évoques. J'aimerais les prendre un par un, répondre aux différents éléments constitutifs de ton argumentation sur l'école du Riage, avant de proposer quelque chose de plus complet sur les questions auxquelles tu aboutis, à savoir est-ce qu'on peut penser comme ça et quel crédit apporter à quoi. Ce qui, enfin, je pense que tu peux en convenir, c'est quelque chose, c'est deux questions auxquelles on peut avoir beaucoup de mal à répondre sans un minimum de contextualisation. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même aborder la problématique du débat, puisque c'est quand même la thématique centrale de l'émission. Est-ce que ça se discute tel qu'on l'a imaginé. Et là, pour cette troisième émission, comme on n'est pas de, on n'est pas en mesure de se trouver dans la même pièce au même moment, avec des invités, un peu comme on l'a imaginé pour le, pour les débats de, est-ce que ça se discute au fil des semaines, il a fallu trouver une solution technique, hein, tout simplement, pour la mise en place de l'émission numéro 3. Ce que tu as proposé comme ça, c'est de m'envoyer une séquence qui dure environ 20 minutes, une demi-heure, à propos d'une thématique et à laquelle tu me proposes de répondre. Alors je voudrais revenir à une question qui me semble qu'on avait abordée dans la première émission. C'était celle de l'imposition de contraintes formelles, de nature un peu oulipienne, comme ça, de contraintes formelles pour le débat. Alors moi j'avais proposé par exemple s'octroyer 5 minutes pour un sujet et s'obliger ensuite à passer au sujet suivant, etc. Et donc de se limiter entre nous et les invités à 5 minutes de débat sur tel sujet, sur les rois de France, 5 minutes de sujet sur les fromages ou les crus, 5 minutes de débat sur l'utilisation des nanotechnologies appliquées à l'agriculture biologique, etc. Et il me semble que là, on est typiquement là-dedans. Le fait de m'envoyer un long texte comme ça, enfin pas un long texte, une longue argumentation aboutissant à des questions, on est typiquement dans la contrainte formelle, qui va aboutir sur un fond qui va permettre de développer le fond d'une autre manière, quoi. Vraiment dans la logique de l'Oulipo ou de ses dérivés, la contrainte formelle nous permet d'accéder à des modalités poétiques un peu différentes, peut-être. Voilà. C'est de ça que je voulais quand même parler dans un premier temps. Il me semble que quelque part par la question, il me semble que quelque part par la nécessité, hein, de la distance, on est arrivé par la force des choses à la mise en œuvre de contraintes formelles qui nous permettent d'avancer dans le projet. Même si il me semble qu'on n'a pas été au bout de la question, de la recherche qu'on avait entamée sur la nature des débats et comment débattre, pourquoi débattre, comment débattre, etc. Parce que quand même, ce qui avait été fondamental, il me semble, dans ce qu'on avait défini initialement, c'est que aussi bien que le sujet abordé, ou les sujets abordés, la forme qu'on donne à la discussion doit être réfléchie, questionnée, sans cesse retravaillée. Voilà, alors, juste un point technique très simple, hein, c'est que pendant tout le début de ton intervention, tu parles de l'école du riage. Il me semble que c'est important de préciser qu'il s'agit de l'école du riage et non pas du riage. C'est uriage et pas le riage. Il me semble que pendant tout le début de ton intervention, on peut vraiment entretenir la manière de prononcer du riage peut entretenir la confusion sur ce point. En fin d'intervention, tu clarifies ça sans le faire exprès, bien sûr. Enfin, ça devient plus clair, mais bon, on peut passer une bonne quinzaine de minutes en croyant qu'il s'agit de le riage, Alors c'est dommage. Et pareillement, un moment de ton intervention, tu parles de l'esprit revue. Alors, entendons-nous bien, il s'agit bien de la revue esprit. La fameuse revue esprit, créée par Emmanuel Mounier et Jean Lacroix. Voilà. Alors il y a quelque chose de... d'un peu important que je voudrais aborder aussi, c'est que pour ton intervention, tu t'appuies essentiellement sur un texte. C'est une intervention qui a quand même qui vise à proposer une lecture historique et critique de la création de l'école du Riage. Donc Uriage, pas le Riage, qui a été une école créée sous Pétain pour, créer les élites, enfin, former les élites de l'État nouveau, de l'État français nouveau, de la nouvelle nation, dans le cadre de la Révolution nationale de Pétain, qui peut s'apparenter à une véritable révolution culturelle, hein, au sens maoïste du terme, genre créons un nouvel État-nation, repartant de zéro quelque part, enfin, ouais, ce point se discute aussi. Et donc, tu t'appuies, comme je disais, pour ton argumentation, sur un texte de Denis Bono, publié sur le site voltairenet.org, le site du réseau Voltaire. Il s'agit de l'article 13.508.1.3508.html, article 13.508.html sur le site voltairenet.org. C'est clairement là un texte critique sur les origines de l'école du Riage et le fait que les membres de l'école du Riage finalement ont retourné leur veste en cours de guerre s'auto-attribuer le statut de résistant et donc quelque part ils ont réécrit leur propre histoire pour profiter des suites de la guerre une fois celle-ci terminée. Et tous ces gens, alors d'après Denis Bono, hein, qui a écrit l'article sur lequel tu t'appuies, tous ces gens qui ont créé le monde, la fameuse revue Esprit, tous ces intellectuels et ces hauts fonctionnaires qui ont vraiment... qui sont vraiment développés au cours des Trente Glorieuses, finalement, ont trempé les mains dans le caca de la collaboration, quoi. Voilà, c'est... Alors que, pour beaucoup de gens, l'école du Riage, notamment, je pense à tous les gens qui font vivre l'idée de l'éducation populaire, et tous les gens qui ont été influencés par l'association Peuple et Culture ont une vision de l'école du Riage qui est complètement différente. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, ça me paraît essentiel quand on aborde un sujet comme celui-là, de citer ses sources, Baptiste. C'est quand même la moindre des choses. Parce que voilà, et là peut-être qu'on a alors de manière assez amusante de manière assez cocasse, j'ai envie de dire, on a eu un début de réponse à ta question. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Eh bien, citons nos sources. Et quel crédit apporter à quoi? Vérifions les sources. Quelles sont les sources? Comment est-ce documenté? Qui parle? Autant de questions sur lesquelles on ne peut pas faire la passe. Qui parle? Qui est qui est ce... Alors comment s'appelle-t-il déjà? Il faut que je vérifie. Qui est ce... Ce Denis Bonneau. Moi j'ai fait des recherches un petit peu très, très sommaires sur internet sur ce Denis Bonneau. Je ne le vois cité que sur le site du réseau Voltaire. Je ne sais pas s'il est scientifique. Enfin, tu vois, on ne sait pas qui est ce garçon. Quoi. Et quelle légitimité il a pour s'exprimer à propos du réseau du Riage et voilà. Enfin, des gens de l'école du Riage. Donc, Uriage, pas le Riage. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît fondamental. Alors, ça, c'est sur le fond, et j'y reviendrai. Et alors, tout simplement, ce que tu as fait pour. En te basant sur ce texte, c'est que finalement tu as lu ce texte de ce garçon là, en y insérant des hésitations, des bruits de bouche, des ponctuations type alors, donc, en modifiant un peu les temps, en employant le futur pour favoriser une narration un peu dynamique, et ça marche très bien. Je trouve que ça on se laisse entraîner au début dans ton récit, dans ce récit en tout cas, mais c'est quand même voilà un récit à charge quelque part sur l'école du Riage, voilà. Alors ça c'est bon, voilà, ça c'est la forme. Bon. Et je pense que tu as choisi cette forme par manque de temps d'une part, et puis par jeu, hein, voilà, pour un peu tirer la question du débat vers quelque chose d'autre, hein, voilà. Et puis comme tu m'en avais parlé précédemment, j'aime bien l'idée aussi d'une émission de radio où ça parle en fond et qu'on peut écouter en faisant autre chose, voilà, qui est peut-être une forme de présence qu'on n'est pas obligé d'écouter en se concentrant et en étant très précis dans l'écoute. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans sur ce genre d'évocation, parce que voilà, il y a tellement de noms qui sont donnés, de noms d'individus et de mouvements, qu'au bout d'un moment, enfin très très rapidement, on s'y perd, à moins d'écouter vraiment avec une énorme concentration, de prendre des notes, peut-être tu vois, de dessiner un petit arbre généalogique de l'école du Riage, c'est impossible de s'y retrouver si on ne sait pas de quoi tu parles. Voilà. Alors, moi, comme je disais sur le fond, alors encore là-dessus, je reviens hein, sur l'idée que pour cette troisième émission d'Est-ce que ça se discute, ça y est, là, on est dans la contrainte formelle, et il me semble, et peut-être que je me trompe, hein, il me semble qu'on ne pouvait pas y échapper, de toute façon, on allait aboutir au bout de 2, 3, 4, 5 émissions, enfin, un certain nombre réduit d'émissions, on allait aboutir à la nécessité de s'imposer des contraintes formelles pour l'émission, au risque de nous répéter constamment, quoi. La contrainte formelle permet de au moins d'arriver sur des sujets de débat. Alors le sujet de débat, l'école du Riage, typiquement, c'est un sujet. On n'est plus sur le débat comme sujet de débat. On n'est plus dans la méta-question. Est-ce que ça se discute? Quelque part, ça se discute, quoi, tu vois. C'est plus est-ce que ça se discute, c'est ça se discute. Mais ça se discute, il me semble que ça existe déjà. Mais c'est pour ça que oui, ça se discute, ça existe déjà, mais alors trouvons des manières de ça se discute, quoi. Et du coup, est-ce que ça se discute? Comment est-ce que ça se discute? Pourquoi est-ce que ça se discute? Avec qui est-ce que ça se discute? Quelle modalité pour ça se discute? Etc. Et donc l'école de Riage, c'est le sujet que tu as choisi d'aborder. Alors peut-être qu'on peut donner un peu de contexte sur ce choix quand même. Il se trouve que nous sommes retrouvés, toi et moi, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 mois, dans une cuisine chez une amie, chez des amis, où des amis, enfin des connaissances, qu'une grosse culture de l'éducation populaire ont évoqué l'école du Riage, des gens qui connaissent un peu, un peu sur le bout des doigts, l'évolution de cette association populaire culture. Et de toutes les connexions en fait qui ont existé entre les créateurs et les animateurs de cette association, et des gens comme Chris Marker, des gens un peu importants dans l'histoire de la création en France au sortir de la guerre, même avec le Conseil national de résistance, des mouvements très importants pour la République française, quoi, et puis même pour l'idée de la démocratie, et puis du pouvoir au peuple, vraiment. Hein. Alors, je voudrais juste... et ce que nous expliquait là, je pense notamment à un garçon qui s'appelle Fabien, qui nous racontait ça avec beaucoup de verve et de brio, d'ailleurs. C'était particulièrement fascinant sur toute cette histoire-là, et donc de ce qu'on en avait compris à ce moment-là, hein, donc il y a 2 mois dans cette cuisine, c'était que l'école du Riage avait joué un rôle fondamental de ciment au début de ce mouvement-là, alors bien qu'ayant été créé sur ordre du maréchal Pétain. C'est très rapidement, l'école s'est très rapidement désolidarisée du régime de Vichy et s'est autonomisée. Et voilà, et d'ailleurs, elle a été dissoute par c'est Laval, non, ou je sais plus, en 1942, parce qu'elle ne répondait plus aux attentes du gouvernement de Vichy. Donc, c'est bien qu'il y avait un problème. Pour Vichy, ça me paraît un peu léger de résumer l'école du Riage, à ce qu'en fait ce garçon dans l'article du réseau Voltaire. Alors voilà, on est arrivé à titre personnel, enfin toi tu es arrivé à ton niveau à cette école du Riage. Via l'idée de l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, si on peut juste le repréciser, hein, c'est un courant de pensée qui cherche principalement, enfin donc qui est né au sortir de la guerre, et qui cherche principalement à promouvoir, donc en dehors des structures traditionnelles d'enseignement, donc pas à l'école en gros, hein, une éducation qui vise l'amélioration du système social. Donc c'est une idée quelque part communiste, socialiste, communiste, au sens fort, pas au sens socialiste du parti socialiste actuel, tu vois. Enfin, au sens pour la société, pour les classes populaires, en gros, pour que les classes populaires puissent s'approprier de la connaissance. Et, voilà. J'ai parlé du sortir de la guerre, mais c'est un mouvement qui existe depuis le 18e ou 19e siècle. Et c'est l'éducation populaire tout au long du 20e siècle, s'est organisée autour de plusieurs courants, le christianisme social, donc le côté chrétien de gauche, hein, voilà, le côté Jésus du christianisme, pas le côté catholique de la religion. Et alors là on rejoint un peu la revue Esprit là, qui est évoqué dans ton argumentaire initial. Il y a aussi les mouvements laïcs, dont par exemple la Ligue de l'enseignement, tu vois, et aussi le mouvement ouvrier, et notamment la CGT. Voilà. Alors il y a des mouvements d'éducation populaire qui sont soutenus par des organisations religieuses, syndicales et laïques au sens des mouvements d'éducation. Mais l'idée, c'est vraiment l'éducation pour l'amélioration du système social. C'est pas l'éducation comme outil de compétition entre les individus pour que le meilleur gagne, tu vois, pour que les meilleurs arrivent en haut de l'échelle, la création des suites. Non, c'est l'idée, c'est l'amélioration de la société, quoi. Donc c'est pour ça que l'éducation populaire, c'est un concept, un très beau concept, quoi, finalement. C'est l'idée que l'éducation, déjà, c'est pas juste à l'école que ça se passe, et aussi que ça doit servir à améliorer la société. Alors l'action des mouvements d'éducation populaire se positionne en complément de l'enseignement normal, enfin formel, et elle veut reconnaître, l'éducation populaire veut reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous les âges de la vie. Ça, c'est la définition un peu basique, quoi. À chacun, la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous les âges de la vie. Donc c'est aussi une idée de l'homme, quelque part. Une idée de l'homme comme individu désireux et capable de toujours se développer en tant que personne. Voilà. Il ne s'agit pas uniquement de diffuser la culture académique. Et il y a aussi l'idée de culture populaire, hein, dans l'éducation populaire. La culture ouvrière, la culture des paysans, la culture de la banlieue, c'est pas juste la grande et belle culture. D'ailleurs, il y a eu une véritable lutte, hein, au cours des 40 dernières années entre l'éducation populaire et la culture. Et alors, d'aucuns, je pense à Franck Lepage, et je pense qu'il a raison, affirme que finalement la culture, au sens, le ministère de la culture, c'est le ministère de la culture bourgeoise, le ministère de la bourgeoisie finalement, et la culture telle qu'elle est perçue aujourd'hui, la grande culture, l'art, telle qu'elle est pensée et véhiculée par le biais du ministère de la culture en France, c'est la culture dominante finalement, c'est la culture bourgeoise, la culture des lieux de culture. Et qui est une culture qu'on veut diffuser, c'est une culture quelque part, c'est une idée de colonisation des esprits du peuple par la culture dominante. C'est pas du tout alors que l'idée de l'éducation populaire, c'est quelque part le contraire. C'est la culture ne se limite pas à la culture officielle bourgeoise. Elle inclut aussi la culture du peuple, enfin la culture ouvrière, la culture paysanne, enfin tout plein de choses. C'est pas uniquement la culture des lieux de la culture. Et voilà, bon, je pense que à l'heure actuelle, c'est assez évident que l'éducation populaire a perdu et que cette idée de la culture, des lieux de culture, l'a largement emporté. Et on en est vraiment là. Seulement, c'est au point où ça n'est plus du tout remis en question. Cette idée de la culture, on te dit toujours et systématiquement que la culture, c'est important. Qu'il faut faire vivre la culture. Enfin, mais qu'est-ce que cette culture, des lieux de culture, est validée par l'État et le pouvoir officiel, à qui sert-elle, quels intérêts sert-elle, cette question est rarement posée. Et l'éducation populaire posait cette question et pose encore cette question. Et sur ce point, il me semble qu'il y a un super bouquin. Alors je vais vérifier en vitesse la référence sur internet. C'est même pas juste un bouquin, c'est aussi article et une conférence gesticulée de Franck Lepage là, que j'évoquais un peu plus tôt, qui s'appelle L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Et c'est une conférence, notamment une conférence gesticulée, mais c'est aussi donc une conférence gesticulée, c'est une espèce de c'est un mélange entre la conférence et le spectacle humoristique de One Man Show. Voilà, ça utilise les outils du One Man Show, donc du spectacle humoristique, pour faire passer une thèse, quelque part. Et c'est un super outil, c'est un outil vachement ludique, qui permet de faire passer beaucoup de choses. Là, je vois sur la conférence de Franck Lepage, je vois qu'elle dure 205 minutes. C'est super long, quoi. Mais ça se regarde très bien, quoi. Et donc, cette conférence s'appelle L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Et ça évoque un peu, même assez en profondeur, cette question de l'éducation populaire contre la culture. Et la culture contre l'éducation populaire. Et cette question n'est pas du tout anodine. On pourrait la balayer d'un revers de la manche, mais elle n'est pas du tout anodine. C'est une vision du monde, une vision de la domination par les élites, ou une vision de l'empowerment, comme disent les anglo-saxons, du peuple. La culture de chaque individu, pour chaque individu. Et la culture au sens très large du terme, pas la culture au sens de la culture officielle, des lieux de la culture. Voilà, alors c'est à travers cette question de l'éducation populaire que tu en es arrivé à t'intéresser à l'école du riage, et que tu t'es et que tu en es arrivé à la question de la création de cette école, et qui sont les gens qui l'ont constituée, qu'est-ce que c'est tout ça. Moi j'ai lu d'autres choses par rapport à l'école du riage. Il me semble que c'est important d'apporter un complément. Tu vois, par exemple, il y a un livre là, qui s'appelle Les hommes du riage de Pierre Bitoun. Alors Pierre Bitoun, c'est un sociologue, un chercheur à l'INRA, donc c'est qui a publié de nombreux ouvrages. Donc c'est, alors on pourrait dire que peut-être il est sous la coupe des gens de l'école du riage qui ont réécrit leur propre histoire, et que donc il fait ça. Et bon, peut-être qu'on peut au moins lui accorder un certain crédit par rapport à ce Denis Bonneau dont on ne sait rien, dont on n'a aucune connaissance de la légitimité. Pierre Bitoun a écrit ce livre qui s'appelle Les hommes du riage, qui est déjà, rien que dans le titre, on sent qu'il y a une bienveillance à l'égard des hommes du riage. Tu entends les hommes du riage, tu sens qu'il y a des connotations positives, on va te raconter quelque chose de beau, quoi, tu vois. Ces hommes ont créé quelque chose de beau. Et alors, en gros, c'est ce qui se dit un peu dans ce livre, c'est que l'école a effectivement été fondée en 1940 par le capitaine de cavalerie Pierre Dunoyer de Segonzac. Donc c'est l'école nationale des cadres du riage, qui a été pensée comme un centre de formation des futures élites du nouvel État français. Mais ce qui est intéressant, c'est que au sein de cette école, l'équipe de base est constituée d'une trentaine de personnes qui sont toutes très jeunes, et que les origines sociales de ces personnes, leurs professions et leurs engagements politiques sont très divers. D'ailleurs, ils reçoivent beaucoup de stagiaires, des milliers de stagiaires au sein de l'école, et pareil, quoi, d'origine et d'engagements très divers. Donc on a aussi bien des marxistes que des chrétiens, et l'idée, c'est de penser la défaite, parce qu'on est quand même au lendemain de la défaite face aux Allemands, et de reconstituer une élite française et de reconstituer le tissu social de la nation pour imaginer ce que pourrait être la France de demain dans l'Europe de demain. Donc ça c'est un peu la base. Mais à la fin de l'année 42, l'école doit fermer ses portes parce qu'elle a justement trop d'indépendance d'esprit, des activités anti-vichysoises, donc opposées au régime de Vichy, et anti-allemande aussi. Et donc Laval décide de la dissoudre. Cela dit, dans leur majorité, et donc dans leur majorité, les hommes et les femmes du Riage, donc Uriage, pas le Riage, rejoignent la résistance. Donc tu vois, c'est. Alors est-ce que quand on lit ça, quand on reçoit cette information, on est dans la réécriture de l'histoire par les hommes du Riage tels que l'affirme l'article que tu évoques, et ben ça nous renvoie la question, est-ce qu'on peut penser comme ça et quel crédit apporter à quoi. Mais en tout cas là il me semble que voilà le Pierre Bitoun a un peu plus de crédit que l'autre garçon, et donc toute une année en 1942 et 43, les gens de l'école du Riage, l'ancienne équipe quoi, en tout cas une partie qui habite le château, y rédige un ouvrage collectif qui s'appelle Vers le style du XXe siècle, et ils partent tous régulièrement en tournée dans les forêts du Vercors pour aider à la formation militaire et spirituelle, pas juste militaire, militaire et spirituelle des maquisards, dont à ce moment-là les réfractaires au service du travail obligatoire viennent grossir les rangs. Mais en 43, la Thébaïde est attaquée, enfin le château donc est attaqué et incendié par l'armée allemande. L'équipe échappe de peu à la mort et elle se disperse avant de se retrouver 6 mois plus tard en juin 44 dans le Tarn, presque au complet et prête à de nouveaux combats. Et donc l'équipe participe à la libération du département en 44 dans le Tarn. Et elle échoue à créer l'ordre évoqué par toi plus tôt. Et le groupe se sépare définitivement, mais voilà, ça, tout ça constitue quand même un terreau. Les anciens du Riage et de la Thébaïde s'engagent chacun à leur manière dans leur domaine, dans la construction d'une France nouvelle. Hein, et c'est pas rien, quoi, parce que là, la France sort de la guerre, les compteurs sont un peu remis à zéro, pas complètement, mais c'est un moment important de l'histoire où il est possible de créer de nouvelles choses. Les portes sont ouvertes pour des routes, des voies sont ouvertes pour créer de nouvelles choses. La place existe. Donc parmi les plus connus, en effet, il y a Hubert Beuve-Méry qui crée le journal Le Monde. Il y a De l'Ouvrier et Nora, deux hauts fonctionnaires qui un peu symbolise la technocratie des Trente Glorieuses. Il y a Domenac, le directeur de la revue Esprit. Donc il y a les deux fondateurs, enfin deux des fondateurs de l'association d'éducation populaire Peuple et Culture, Geoffre Dumasdier et Benigo Cáceres. Mais il y a aussi des gens comme Jacques Doré, le chanteur, ou Yves Robert, le réalisateur. Et donc, moi, ce qui me semble plus important d'évoquer, et ben c'est finalement cette association Peuple et Culture. Parce que c'est ça, c'est de là qu'on était parti quelque part. Et donc Peuple et Culture, c'est un réseau d'associations d'éducation populaire, hein, comme je viens d'expliquer un peu plus tôt, et qui s'est créé finalement sur le fumier, sur les cendres de l'école du Riage. Et donc c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que une école une espèce d'ENA de l'époque, enfin finalement une école destinée à créer les élites, à former les élites du futur État, une école pensée par le régime de Vichy, donc un régime fasciste, autoritaire, antidémocratique, qui avait une certaine idée de la France éternelle aussi, royaliste un peu. Une école créée par ce régime, finalement, donne naissance à un réseau d'éducation populaire, permet à de véritables intellectuels regroupés dans cet espace et dans ce temps, et dans ce moment de l'histoire aussi, de penser l'éducation populaire, et ce concept-là. Il me semble que c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que tu pars d'une école pensée pour le régime de Vichy, et tu arrives aussi, parmi les multiples ramifications de cette création-là, c'est aussi le truc, l'effet papillon finalement, quoi, tu vois, il se passe un truc, un endroit, un moment, et quelles en sont les conséquences, c'est impossible de le savoir à l'avance, et il peut y avoir des conséquences magnifiques à ce mouvement-là, enfin des conséquences en tout cas très lointaines et très inattendues. Alors voilà, là c'est pas des conséquences très lointaines et très inattendues, mais en tout cas elles sont assez opposées à l'objectif initial du régime de Vichy. Alors, est-ce qu'on peut penser comme ça et quel cri apporter à quoi? J'ai un peu envie de te retourner la question.
Lundi
20h, 21h.
Stéphane Corcoral, Baptiste Brunello. Est-ce que ça se discute
sur la radio du Mamie?
Est-ce que ça se discute?
Est-ce que ça se discute?